Le titre de notre dernière étude, je vous l'ai déjà annoncé, le salaire du péché. Et vous connaissez la suite, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Paul pensait sans doute, avec cette formule, au texte de la Genèse, à cette clause de l'alliance créationnelle. Le jour où tu revendiqueras une illusoire autonomie, où tu prétendras manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mourir, tu mourras. C'est la dernière partie de cette seconde tablette du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7 et suivant, qui nous décrit l'enchaînement fatal qui découle de la décision de l'homme. Nous voyons la mort, sous toutes ses formes, s'étendre comme un suaire déjà, pourrait-on dire, sur son existence. Avant de considérer le texte, je voudrais préciser un point qui me paraît important à propos de la mort comme salaire du péché. Un point qui est assez général, et ce que je vais en dire résulte de l'ensemble de la révélation scripturaire. Il me semble que nous devons dire que la punition divine, le salaire du péché, est à la fois sanction infligée et conséquence naturelle. Les deux en liaison, sans confusion, mais sans séparation possible non plus. Conséquence naturelle, c'est la suite inévitable du processus déclenché par le péché lui-même. C'est le péché qui enfante la mort, comme dit Jacques 1,15. Le péché enfante la mort. Et nous avons dans l'Épître aux Galates, par exemple, l'image de la moisson qui nous dit le même caractère logique de l'enchaînement. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Mais il y a aussi un autre aspect dans beaucoup de textes. Dieu condamne à mort. Il y a jugement et il y a infliction de peine sur le commandement du juste juge. Et nous ne pouvons pas laisser, je crois, aucun des deux aspects s'absorber purement et simplement dans l'autre. Si nous insistons seulement sur le caractère de sanction infligée, alors nous risquons de faire apparaître arbitraire la punition que Dieu doit administrer. Et alors nous avons l'objection, mais enfin, Dieu d'amour, comment peut-il, etc. Si nous nous rendons compte qu'il y a aussi une logique inexorable, que c'est la moisson de ce qui a été semé, alors nous comprenons qu'il est fou, simplement insensé, d'imaginer une autre issue au processus du péché. Mais d'autre part, si nous nous bornons à souligner ce caractère d'enchaînement, je dirais, naturel, de logique immanente pour le péché, alors nous transformons la punition en une simple conséquence dans un enchaînement causal qui n'a plus de note morale particulière. J'ai entendu parfois des illustrations qui suggéraient un petit peu ce sens. Bon, les microbes et la maladie, et puis voilà. Il nous faut marquer qu'il s'agit d'événements qui se situent sur un autre plan. Les lois qui entraînent les conséquences en cause ne sont pas les lois physiques simplement, parce que nous ne sommes pas dans le domaine physique simplement, ce sont des lois spirituelles qui impliquent des notions de bien et de mal, de droit ou d'injustice. Il s'agit de ce qui est juste, et nous ne pouvons pas dire simplement c'est la fatalité que nous voyons à l'œuvre dans la maladie physique. Ce n'est pas une simple fatalité, c'est ce qui est droit et juste. Et ces lois spirituelles, il ne faudrait même pas les considérer simplement comme, disons, un système impersonnel. Ces lois spirituelles, finalement, ce sont des expressions de ce que Dieu veut et de ce que Dieu est. Et c'est lui-même personnellement qui est en cause. C'est pourquoi tout ce que la Bible nous dit d'un jugement de Dieu lui-même, pas simplement d'un effet de loi existant dans le domaine spirituel, toutes ces choses-là ne doivent pas être réduites et transformées en abstraction. C'est vraiment Dieu qui est le juge et qui, pour être fidèle à lui-même, doit dénoncer le péché, le condamner et le punir. Les deux ensemble, voilà je crois ce qu'on peut dire de façon générale de la façon dont la Bible considère la sanction, la punition. Alors on peut, me semble-t-il, suggérer que dans notre texte de la Genèse, ces deux aspects toujours intimement liés sont présentés comme en succession. C'est-à-dire que la première partie du passage que nous avons lu nous montre plutôt l'enchaînement naturel et la seconde partie plutôt l'aspect judiciaire de condamnation par le Seigneur. Les deux ne sont pas séparables, je le maintiens, mais on peut quand même voir une certaine progression sous ces deux angles dans le texte. Alors vous avez l'effet immédiat de la faute dans les versets 7 à 9, et puis ensuite, alors, l'énoncé du jugement de Dieu, par Dieu lui-même. Sans aucun sursis, dès qu'ils ont mangé, l'homme et la femme éprouvent que l'engrenage s'est mis en marche, ils sont pris dedans, les conséquences du péché commencent à découler. Ils ont mangé du fruit, et d'emblée s'installe chez eux la honte qui va motiver chez eux cette confection de ceinture végétale, de pagne, de feuilles, de figuier. C'est, pourrait-on dire, la mort de la simplicité, la mort de la liberté des rapports que l'homme et la femme avaient avant leur désobéissance. Nous les avons vus à la fin du chapitre 2 dans cette merveilleuse aisance et transparence, tous deux nus et sans honte, cette allégresse. Et maintenant, le verset 7 nous énonce comme première conséquence de leur acte de péché, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors que signifie cela? Je crois que nous ne pouvons pas esquiver ici l'idée que la référence est à la pudeur sexuelle. C'est la honte de la nudité en rapport précisément avec la différence des sexes qui est en cause. Un grand auteur au moins contemporain a essayé d'éviter cette signification. C'est le penseur philosophe catholique allemand Romano Guardini, il a un nom italien mais il est allemand, qui essaie dans un de ses livres de ne voir ici que la honte d'être seul, faible, mortel, démuni dans le monde. Je ne pense pas que ces composantes soient rigoureusement absentes. Si Romano Guardini plaide dans ce sens, c'est qu'il veut éviter l'idée que le péché aurait été la découverte de la sexualité. Et nous sympathisons entièrement avec cette intention de Romano Guardini. Mais je crois quand même que nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle explication, car ce n'est pas un vêtement pour tout le corps, pour se protéger du froid ou du soleil que l'homme et la femme se confectionnent, d'après le texte, mais ce sont des pagnes, des ceintures. Donc il me semble que le rapport au phénomène bien connu de la pudeur ne peut pas se manquer ici. Nous pouvons dire, me semble-t-il, que le besoin de se couvrir signifie la désharmonie du rapport homme-femme. Le péché fait tout à coup de leur différence une étrangeté, une gêne se glisse dans leur face-à-face. Et je crois que c'est inévitable parce qu'ils ont rejeté la référence qui les unissait. Cette référence que dans la première aux Corinthiens au chapitre 11, nous avons vu sous la plume de Paul, et tout vient de Dieu, l'homme, la femme, tout vient de Dieu. Ils ont choisi d'être chacun un commencement absolu, être comme Dieu. Mais alors du coup, le rapport mutuel fait problème. Chacun s'est décidé centre de perspective, point de référence, et du coup il fige l'autre. C'est une logique que des auteurs contemporains ont su développer, en particulier Sartre. À partir du moment où je commence par me poser et je me prends pour le point de référence, alors je fige l'autre en objet, inéluctablement, son regard devient une menace. Il me réifie et le rapport des consciences est inéluctablement conflictuel. Tour à tour ou à la fois, l'homme et la femme sont l'un pour l'autre loup et proie. Il me semble que c'est cela déjà que signifie ce besoin de se cacher. Est-ce qu'on peut pousser plus loin l'analyse ? Pourquoi ce rapport plus particulier à la sexualité, puisque c'est le centre de leur chair que l'homme et la femme vont cacher ? Il me semble que nous pouvons évoquer deux raisons à ce propos. D'une part, c'est ce qui est au centre de leur relation, en vertu des choses que nous avons analysées hier. Et c'est donc là qu'ils éprouvent le plus vivement que cette relation maintenant a perdu sa liberté, qu'elle est devenue difficile, qu'elle est profondément perturbée. Et puis il y a, me semble-t-il, une autre raison qui se tire aussi de ce que nous avons vu hier. Le péché intervenu, la bisexualité, reste, me semble-t-il, un des témoignages les plus puissants qui dénonce le péché en l'homme, qui dénonce sa prétention à l'autonomie. Elle dit à l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, au fond, en mangeant le fruit, il a choisi d'être seul, seul par rapport à Dieu en tout cas. Mais il y a réflexion au plan terrestre, précisément dans le rapport avec la femme. Il a choisi d'être seul, or la sexualité lui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il s'est prétendu comme Dieu, mais en vertu de cette situation de la sexualité entre le corps et l'esprit, et les joignant, comme nous l'avons vu, sa sexualité lui rappelle inéluctablement qu'il n'est pas Dieu, qu'il est conditionné, qu'il est déterminé, qu'il appartient à une terre. La sexualité lui proclame donc, même quand il a commencé de la pervertir, qu'il a besoin de l'autre, qu'il est fait pour la communion, qu'il n'est pas autosuffisant. Et elle devient chez lui une puissance qu'il ne maîtrise pas. Dans sa prétention à l'autonomie, la sexualité est chez lui comme un démenti. Et je crois que c'est ce qui suscite en lui, tout spécialement, le besoin de la masquer, d'adopter une tenue. Je crois que le mot est éloquent. L'homme, maintenant, aura de la peine à se tenir, à maîtriser tout ce qui est en lui, dans l'harmonie d'une communion avec Dieu. Il avait l'énergie divine pour le faire, dans un ordre divin, mais maintenant il a rompu ce lien. Il se retrouve seul avec lui-même, et un lui-même qui est fait de tendances qu'il voudrait dompter, mais qu'il n'arrive pas à dompter totalement. Tendance de désordre, tendance aussi qui lui rappelle sa vocation à la communion et sa seule ressource, puisqu'il ne réussit pas à se maîtriser, alors c'est de se cacher, dissimuler l'affaire, dissimuler ce combat en quelque sorte, et ne pas le livrer au regard de l'autre qui est maintenant une menace sur son chemin. Cette question de la pudeur et de la nécessité de se dissimuler, je crois qu'elle est riche de sens, et certains grands auteurs, grands penseurs y ont réfléchi. Ce que je vous propose n'est pas tout à fait dans la même ligne, mais il y a des pages intéressantes chez Dietrich Bonhoeffer, par exemple, sur ce sujet même de la pudeur. Je voudrais signaler, parce que c'est un sujet d'actualité, il n'y a qu'à lire l'Express de cet été, que le nudisme moderne a une signification spirituelle, je crois, dans ce contexte. On peut dire que le nudisme est une tentative désespérée pour retrouver l'Éden perdu, avec sa transparence, avec sa liberté. Qu'en un sens, nous pouvons sympathiser avec ce qu'il y a de nostalgie. Mais c'est un effort pour ignorer le fait du péché et les perturbations qu'il a entraînées. Et c'est pourquoi on voit dans, je crois, les justifications intellectuelles associées, car il y en a, une tendance très nette à rejeter la responsabilité, à présenter la vie humaine, finalement, à la manière d'une vie animale. Une vie, donc, simplement à l'unisson de la nature, de sa biologie, paraît, je crois, que c'est l'idéologie nudiste, la vraie vie humaine. Vous comprenez la stratégie en cause. Il s'agit d'effacer la culpabilité, ce qui est justement ce propre de l'homme dans sa distinction d'animal, ainsi d'oublier le fait du péché. C'est une dissimulation de la nostalgie d'un Éden perdu, je crois. Et pour la Bible, c'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. La pudeur est un effet du péché, mais son refus serait une ignorance trompeuse du péché. Et si l'homme et la femme se cachent l'un de l'autre, c'est, disons, un moindre mal après le péché. Alors bien sûr, dans sa grâce commune, dans sa miséricorde pour l'homme exilé loin d'Éden, Dieu permet, dans l'état de mariage, et même aux incroyants, de connaître comme un reflet de la liberté d'Éden à cet égard, sans honte. Mais il est clair, me semble-t-il, que dans les rapports courants de la vie quotidienne, en dehors de cet état de mariage, que Dieu a préservé dans sa bonté pour l'homme, il est clair qu'il veut le vêtement. C'est précisé, en ce qui concerne la femme, en tout cas, dans la première épître à Timothée au chapitre 2. Évidemment, c'est un contexte particulier, limité, mais il y a quand même une mention du vêtement. Et puis dans notre texte même, nous voyons que Dieu, jugeant que les efforts de couture de l'homme et de la femme sont encore un peu trop l'apprentissage maladroit, leur confectionne lui-même des vêtements, des manteaux de fourrure, ce qui, évidemment, est une démarche de sa miséricorde que nous aurons encore à méditer, mais qui, je crois, approuve, disons, la démarche que la pudeur a inspirée à l'homme et la femme, approuve que l'homme se mette un vêtement. Il me semble que c'est ainsi que Dieu marque son approbation de la démarche en cause. Oui, il n'est plus question de revenir à la nudité d'Éden. Alors on peut remarquer dans la suite, pendant notre passage, qu'il y a une dialectique, pourrait-on dire, dans le vêtement, de la dissimulation et de l'expression, donc finalement de la révélation de la personne. Le vêtement sert à dissimuler, à permettre à l'homme de ne pas être trop vulnérable sous le regard d'autrui et de se tenir, mais en même temps, il prend valeur symbolique et justement, résultant de la volonté de l'homme, du choix qu'il fait, peut lui servir à exprimer ce qui est son sentiment intérieur, sa volonté cachée, peut lui servir, si vous voulez, de parole pour dire qui il est ou qui il veut être. Donc il y a une double valeur aux vêtements, qui dissimule mais en même temps révèle. Alors, révèle le rang social, etc. Dans l'Antiquité, ça comptait beaucoup, mais révèle aussi ce que la personne est dans ses dispositions plus cachées. C'est sans doute à cause de cette dualité que Dieu ne revient jamais dans la suite de l'histoire biblique sur l'imposition d'un vêtement. Et que même dans la rédemption, il n'y a pas retour à la nudité édénique. Dans la rédemption, il y a nouveau vêtement. La grâce, c'est un vêtement nouveau, éclatant et pur. On peut dire, si vous voulez, que le péché est couvert, mais on ne fait pas comme s'il n'avait jamais existé. Nous restons des pécheurs graciés, et ainsi c'est un vêtement supplémentaire, remplaçant nos haillons, qui nous est donné par le Seigneur du salut. Mais en même temps, on peut dire que ce vêtement, alors, est un vêtement qui correspond pleinement à la valeur de révélation que le vêtement courant a gardé. Et que dans le vêtement de la grâce, alors nous sommes révélés. Nous sommes aussi libres qu'en Éden et davantage. Nous sommes à la fois parfaitement protégés et parfaitement révélés, car c'est un vêtement de vérité pour tous les rapports de ceux qui sont non pas simplement ramenés en Éden, mais introduits dans le paradis de nouvelle création, qui est restauration d'Éden avec un plus, avec ce plus que la première aux Corinthiens évoque, le premier homme, âme vivante, l'homme second et nouveau, dernier, esprit vivifiant. Ce plus de l'homme terrestre à l'homme céleste. C'est ce qu'exprime la symbolique, je dirais, du vêtement aussi dans toute la Bible. Ça, c'est le premier point sur lequel j'ai pas mal insisté, je serai plus bref sur le second. Seconde mort qui semble être la conséquence immédiate de la révolte de l'homme, c'est la mort de la sécurité. L'homme tombe non seulement dans la honte, mais dans la peur. Alors en parlant de menace pour le regard de l'autre, au fond j'ai déjà évoqué une certaine peur, l'insécurité en face du prochain, mais le récit souligne surtout la peur de l'homme et de la femme devant Dieu. Versets 8 et 9, ils se cachent effrayés lorsque le son de la venue de l'Éternel Dieu leur parvient. Si l'homme se cache du regard de son semblable, il se cache encore bien plus fébrilement et avec plus d'angoisse du regard de Dieu. De nouveau une analogie entre celui, entre le Créateur et puis son image, si vous voulez. Cette insécurité au fond de l'homme, vous savez que c'est un thème des psychologues, il y a sans doute des psychologues parmi vous qui pourraient en parler bien mieux que moi, alors je n'essaie pas de développer, mais nous pouvons noter que dans ce texte, le thème est en bonne place, que d'emblée, la peur, l'insécurité profonde apparaissent comme conséquence du péché. Et je fais deux remarques, alors supplémentaires, basées sur le texte. En premier lieu, la vanité de la fuite. La vanité de tous les efforts faits pour se cacher de la face de Dieu. Qu'ils sont pitoyables et ridicules pour Adam et Ève, qui s'imaginent pouvoir échapper à l'inquisition du maître du jardin. Et ensuite, alors je remarque que les écrans utilisés sont les arbres du jardin, c'est-à-dire les cadeaux de Dieu. Les biens même que Dieu a mis si généreusement à leur disposition. Et alors je suggère que cela s'applique à tous les efforts des fils d'Adam après lui pour se cacher devant la face de l'Éternel Dieu. Au fond, les écrans derrière lesquels nous tous et nos contemporains se cachent pour essayer d'oublier le Dieu dont la face les terrifie. Tous les écrans derrière lesquels ils refoulent cette conscience même, ce sont les dons même de Dieu. C'est toujours avec des choses bonnes que Dieu a données que l'homme se fabrique non seulement ses idoles, mais aussi tous ses pauvres boucliers contre Dieu. Alors, je ne sais pas, je vais évoquer, pour certains ce sera le savoir lui-même, la science qui l'édifiera, pour d'autres, telle forme artistique, etc. Vous en avez une multitude, comme sont une multitude tous les biens de Dieu. Voilà donc ce que nous pouvons dire, me semble-t-il, pour les premiers versets du passage en cause, qui nous montrent comme la conséquence inéluctable qui découle du péché. Et ensuite, alors, du verset 10 à la fin, vient la sentence prononcée par Dieu. Et je vous fais admirer la construction du passage. Vous l'avez sans doute remarqué, mais c'est une construction parfaitement géométrique. L'homme est interpellé, l'homme fait retomber sur la femme la culpabilité qui fait retomber sur le serpent, et alors Dieu parle au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Vous avez là une magnifique symétrie. Le jugement du serpent, au verset 14 et 15, est d'abord un jugement de malédiction. Il est maudit parmi toutes les créatures. On pourrait d'ailleurs comprendre, ce serait une possibilité philologique, je ne pense pas que ce soit la meilleure quand même, qu'il est maudit par toutes les créatures. On peut comprendre dans toutes les créatures, mais on pourrait comprendre la préposition en cause comme une préposition d'agent. Il me semble que c'est plutôt quand même l'idée d'entre toutes les créatures qui est à retenir ici. Il mangera la poussière, traînera sur le ventre et mangera la poussière, et il sera déçu dans son dessein, dans son rapport avec l'humanité. Il y aura lutte entre l'humanité et le serpent et la gent du serpent. Voilà les trois composantes principales de la sentence sur le serpent. Alors je crois que nous pouvons observer ce que nous avons déjà observé précédemment, qu'on peut lire ça à deux niveaux. Vous avez le niveau superficiel naïf, si vous voulez. C'est un serpent. Et le serpent, on sait que c'est l'animal qui se traîne dans la poussière, qui donc colle au sol et mord la poussière. Et puis on sait que généralement, entre les humains et les serpents, il n'y a pas beaucoup de sympathie, que les serpents essaient de mordre au talon les gens qui marchent, et que les hommes de leur côté essaient d'écraser la tête des serpents qu'ils rencontrent. Vous pouvez lire ça comme ça, de cette manière, je dirais, naïve. Mais je crois que la densité de ce texte est telle que vous serez d'accord avec moi, pour conclure une fois de plus, que tout cela n'est pris que comme figure de ce qui concerne celui dont le serpent lui-même est la figure, à savoir le diable, Satan, comme nous dit l'Apocalypse. Et alors il faut traduire tous ces éléments de la figure, comme on traduit les éléments d'une parabole, il faut les traduire pour comprendre ce que cela veut dire. Alors il est maudit parmi toutes les créatures, oui, parmi toutes les bêtes, disons, dit le texte. Mais ça, je crois que ça signifie que Satan, le diable, est le maudit parmi toutes les créatures. Il est celui que Dieu, en quelque sorte, répudie, sans aucune réserve, qui est comme éloigné infiniment de la face de Dieu. Il mangera la poussière. Eh bien, je crois que c'est une expression qui s'entend très facilement. Nous parlons tous de mordre la poussière. C'est l'annonce de sa défaite ultime. Le serpent a cru, Satan a cru, qu'il pourrait dominer, en quelque sorte remplacer Dieu dans la domination sur toute la création, puisque si l'homme placé comme vice-roi sur la création visible cédait au serpent, c'est finalement le serpent qui prenait la place de Dieu dans la détermination du monde. Et le serpent a cru qu'il avait gagné la partie contre Dieu. Mais Dieu le renvoie à sa poussière. Il mordra la poussière. Et il sera déçu dans son dessein. Il a cru qu'il mettait, si j'ose dire, l'humanité dans sa poche. Mais Dieu dit, je mettrai inimitié. Il y aura combat. Un combat qui se terminera par l'écrasement de l'ennemi de Dieu. Donc le Satan n'aura pas la victoire qu'il a cru toucher en faisant tomber l'homme et la femme. Voilà, me semble-t-il, ce que signifie assez clairement cette sentence sur le serpent. Le jugement de la femme, le serpent est puni, si vous voulez, dans son intention fondamentale, dans son effort pour finalement lui aussi prendre la place de Dieu en manipulant l'homme que Dieu avait créé en son image. Le jugement de la femme, au verset 16, concerne sa situation spécifique de femme. Et disons, c'est un des textes qui, dans l'Écriture, peut nous permettre de comprendre quelle est, dans la vision biblique, ce qui caractérise la femme. Elle est touchée dans la maternité et dans le rapport à son mari. C'est extrêmement net. Et nous nous rendons compte alors de ce qui caractérise le jugement du péché, au moins certaines de ses phases, dans ce texte. Après le péché, en quelque sorte, tout ce que Dieu a institué subsiste. La bénédiction de Genèse 1, la bénédiction de la fécondité, n'est pas abolie. Le rapport de l'homme et de la femme, nous avons étudié hier, est maintenu. Mais tout est distordu, perverti, affecté d'un coefficient négatif qui rend pénible ce qui était harmonieux. Donc tout reste là, si vous voulez. De même que l'homme reste image de Dieu. Et en même temps, tout est changé. La femme était appelée à la maternité. Mais maintenant, cette maternité impliquera souffrance. L'homme et la femme étaient dans un rapport que Paul explicite, que nous avons étudié. Mais maintenant, l'ordre de Dieu devient une tyrannie. L'homme, en profitant pour asservir la femme, ton mari dominera sur toi, et cela sans possibilité pour la femme d'y échapper, parce que son désir la rapportera à son mari de telle sorte qu'elle n'y échappera pas. Vous voyez comment le tableau nous est présenté. Le rapport reste là, en quelque sorte indestructible, mais son signe est changé. Et la peine, maintenant, vient remplacer l'aisance et la joie. Alors bien sûr, nous le savons, la grâce commune de Dieu, qu'évoque par exemple acte 14, fera que ce tableau sombre sera quand même traversé de rayons de lumière, même pour les païens. Dieu donne de la joie au cœur des païens, dit le discours d'acte 14. Dans sa bonté. Et ainsi, le rapport de l'homme et de la femme et la maternité ne sont pas simplement peine et souffrance, mais ce sera malgré tout dans le péché la note dominante. Le jugement de l'homme, versets 17 à 19, touche aussi l'homme dans sa vocation particulière d'homme, sa situation particulière d'homme. Il était Adam, tiré du sol Adama. Eh bien, c'est son rapport au sol. Adama est chargé de cultiver le sol. C'est ce rapport au sol qui est en cause dans la sentence sur l'homme, versets 17 et 19. Il était appelé à le cultiver, il gardait, il le cultivera et le gardera encore. Mais c'était dans la joie presque d'un jeu. Et maintenant, ce sera dans la peine. Les mêmes termes employés pour la femme dans sa maternité sont employés pour l'homme dans sa culture de la terre. Et une altération de la terre elle-même est évoquée ici, dont nous parlions avec quelques-uns hier, dont nous n'avons pas exactement les paramètres, mais qui est affirmée donc par l'Écriture, en conséquence de la révolte de l'homme, qui était établie comme vice-roi sur la création de Dieu, la création elle-même souffre et soumise à la vanité à cause de lui. Cause de lui, et Paul soulignera en Romains 8 que c'est à cause de lui. Il y a une solidarité, si vous voulez, entre l'homme, le terrien, et puis la terre. Le rapport de la culture est un premier rapport, mais il y en a un second. C'est le rapport de provenance. Et c'est là que nous voyons alors distinctement le thème de la mort revenir. Tu mourras, voilà ce qu'avait dit le contrat d'alliance, et maintenant Dieu dit à l'homme qu'en effet il mourra après cette mort de la simplicité, de la sécurité, etc., de leur rapport homme-femme. C'est la mort alors au sens courant, au sens élémentaire. Tu retourneras à la terre de laquelle tu as été pris. Alors il me semble que nous devons encore balancer deux données à propos de cette mort. D'une part, cette mort apparaît comme une sanction du péché. C'est clair dans ce texte. Paul sera encore plus net en disant que c'est par un homme que la mort a été introduite dans le monde, c'est par un homme qui est venu la mort, 1 Corinthiens 15. Donc c'est quelque chose apparemment qui résulte du péché et qui n'aurait pas dû être sans le péché. Voilà ce qui apparaît. Et d'autre part, la sentence même de Dieu rattache ce retour à la poussière au fait que l'homme a été tiré de la poussière. Rattache donc à la solidarité de l'homme avec le monde terrestre cette nécessité à laquelle il est maintenant soumis de mourir. Alors il me semble que c'est instructif, que cette dualité peut être interprétée de la manière suivante. La chute et la punition ne changent pas la définition métaphysique de l'homme. L'homme n'était pas un être qui en soi aurait possédé une immortalité de type divin. Dieu seul a l'immortalité, dit Paul à Timothée. Il était, si vous voulez, dans la constitution de sa nature, une possibilité de mourir. Tiré de la terre, il n'était pas incapable de mourir sans que sa définition métaphysique même soit changée. Il reste un homme des riens. Bon. Mais ce n'était pas sa destination dans le plan de Dieu. Parce qu'il n'était justement pas seulement tiré de la terre, il avait reçu l'insufflation divine en image de Dieu et il mangeait de l'arbre de vie. Il mangeait de l'arbre de vie et il semble bien que le texte veuille dire que dans la communion de Dieu, il n'aurait pas été soumis à la loi commune des êtres tirés de la terre, la loi des animaux tirés de la terre comme lui, il n'aurait pas eu à mourir. En quelque sorte, cette possibilité abstraite de sa nature en tant que terrien n'aurait pas été traduite en acte s'il était demeuré dans la communion de Dieu, parce que dans la communion de Dieu, qui dépend de sa différence avec les animaux, dans la communion de Dieu, alors il y avait renouvellement de la vie, participation à l'arbre de vie. Maintenant, il s'est coupé de Dieu, et alors il retombe sous la loi du règne animal. Voilà comment je suggère d'interpréter cette sentence. Alors, cela ne veut pas dire qu'il meurt à ce moment-là simplement comme un animal. Parce que justement, il n'est pas un animal. En se coupant de Dieu, il n'a pas cessé d'être responsable devant Dieu. Un être en image de Dieu. Il se comporte contradictoirement de son image, de son être en image de Dieu. Mais il ne peut pas l'abolir, il n'en a pas le pouvoir. Et il vit maintenant dans l'autocontradiction, de telle sorte que sa mort est une mort complexe par rapport à celle des animaux. Il meurt comme les animaux, mais il n'est pas un animal. Ce qui alors laisse la porte ouverte alors aux développements qui seront clairs ultérieurement dans l'Écriture sur les deux morts, première mort et la seconde mort pour l'homme, selon qu'il n'est justement pas seulement un animal, mais qu'il a reçu la laine divine et qu'il est en image de Dieu. À ce privilège correspondra la seconde mort. Et dans le texte lui-même, je crois que cela nous est déjà suggéré sans être développé. Ce qui suggère que la mort de l'homme est autre chose que la mort d'un animal, c'est la mention finale. Le chemin de l'arbre de vie est barré. Il est barré par le glaive tournoyant de la foudre divine, évocation sans doute des éclairs qui font comme les moulinets étincelants d'une épée terrifiante. Et puis les kérouvim, qu'est-ce que les kérouvim? C'est une figure que l'on retrouve dans le Moyen-Orient. Les caribous, c'est le même mot, assyro-babylonien par exemple, ce sont des figures composites, lion, bœuf, aigle, en général, parfois les compositions varient un peu, qui gardent les temples assyriens, par exemple. Et nous les trouvons décrits, à peu près d'ailleurs sous cette forme, figure composite, dans le livre d'Ézéchiel. Ils sont tapés dans le livre d'Ézéchiel, les kérouvim, et ils correspondent, vous voyez, à cette composition multiple des caribous assyro-babyloniens. Alors, comment devons-nous comprendre? Beaucoup de gens imaginent que les chérubins sont des êtres angéliques réels qui existent dans le ciel. Alors, je ne dis pas que ce soit impossible. Ce n'est pas impossible, mais quand vous savez ce contexte que je viens d'évoquer, cela me paraît devenir un peu douteux. Et nulle part, la Bible nous dit que Chérubin soit un ange. Nulle part. C'est toute une tradition d'angélologie qui a admis cela comme une sorte d'évidence, mais ce n'est pas du tout dans les textes. Et je tends à penser qu'il s'agit plutôt d'une figure symbolique. Là encore, déjà dans la décoration de l'arche, nous les retrouvons dans les textes d'Ézéchiel et aussi dans ce texte de la Genèse. Alors symbolique de quoi? Là encore, il y a diverses interprétations. Certains ont voulu y voir des figures de l'humanité régénérée, mais ça ne me convainc guère. Il me semble qu'à cause du caractère composite qui permet de réunir dans ces êtres fantastiques toutes les excellences de la création, l'excellence de la force vitale du bœuf ou du taureau, l'excellence de l'agilité aérienne, l'aigle, l'excellence de la force guerrière, de la puissance combative avec le lion, puis l'excellence alors de l'homme, il me semble que nous pourrions dire que ces êtres figurent tout le pouvoir de Dieu dans sa création. C'est en quelque sorte comme un condensé de toutes les excellences de la création au service de Dieu. Dieu, disons, dans sa puissance de créateur, ou bien la création au service de son créateur, finalement ça revient pratiquement au même, je crois, et alors les chérubins représenteraient donc toute la puissance créatrice, toute la puissance de la création. C'est elle qui barre le chemin de l'arbre de vie. Et alors s'il y a ces chérubins qui barrent et ce glaive tournoyant qui évoque la sainteté des jugements divins, il semble que cela veuille dire que l'arbre de vie existe toujours. Est-ce que ça ne laisse pas alors une pensée au moins quant à un avenir possible malgré tout pour cet homme et cette femme? Autre chose simplement que le retour à la terre. Remarquez que cette existence toujours de l'arbre de vie n'est jamais reniée ensuite dans l'écriture. Ce qui, alors, peut-être versé au débat sur la localisation géographique d'hier. Nulle part il n'est dit que le paradis aurait été un temps sur la terre, puis qu'il aurait été enlevé ensuite. Mais au contraire, nous avons dans Apocalypse 2, 7, je n'ai pas donné la référence hier, une affirmation, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Un présent. Ce qui me semble contribuer à l'idée que l'arbre de vie est une figure pour la communication de vie qui est dans la sagesse divine. Pourquoi ce chemin de l'arbre de vie est-il ainsi barré? Pourquoi, dans toute la puissance créatrice, qu'est-ce que cela veut dire? Est-elle postée pour empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de vie? Je crois que c'est la logique des deux arbres, fondamentalement. Ou bien l'un, ou bien l'autre. L'homme a prétendu à l'autonomie, eh bien, il ne lui reste alors aucune chance d'accéder à la vie. Et toute la puissance créationnelle, au fond, finalement, toute la puissance concevable, empêche la mendication de deux arbres à la fois. Alors, ça c'est la réponse fondamentale, le verset 22 intervient. Le verset 22 qu'il nous faut essayer de comprendre et qui n'est pas le plus facile de l'ensemble de notre texte. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Je crois qu'il faut traduire comme ça, malgré certains efforts de commentateurs récents dont le livre de Goldstein suit les suggestions. Je crois qu'il faut traduire comme on traduit habituellement. Pour connaître bien et mal. Et maintenant, de peur qu'il n'étende la main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange et ne vive éternellement. Et puis la phrase reste en suspens, faisons quelque chose, et puis nous voyons ce que Dieu fait, il expulse d'Éden et poste des chérubins. Alors que veut dire cette phrase? D'abord la première partie. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Est-ce de l'ironie? Est-ce la vérité? Les deux possibilités. Est-ce que Dieu se moque de l'homme en disant ça? Il voulait devenir comme l'un d'entre nous, voyez ce que ça a donné. Ou bien, est-ce que c'est la vérité d'une manière ou d'une autre? Moi, je suggère que c'est les deux à la fois. Non pas par éclectisme, je crois, systématique, mais parce que c'est le paradoxe du péché. Le diable tient ses promesses en un sens, parce que c'est un menteur vraiment subtil. C'est pas le menteur grossier, malhabile, qui vous dit simplement le contraire de ce qui est, qui vous présente en négatif ce qui était en positif. Non, c'est un mensonge beaucoup plus subtil. La vérité est là, mais finalement, ce n'est plus elle. Il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Leurs yeux s'ouvrirent, verset 7. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent. Il leur a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu dit, ils sont devenus comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il leur a dit, vous deviendrez autonomes. Ben, ils sont devenus autonomes, en un sens. Oui, au lieu de recevoir de Dieu les déterminations du bien et du mal, c'est eux maintenant qui les déterminent pour eux-mêmes. En un sens, oui, ils ont acquis, par l'introduction du péché, une indépendance qui est la marque de la divinité. Celui qui est Dieu, c'est celui qui ne dépend que de lui-même. Or, voilà, dans le péché, ils ne dépendent pas de Dieu. Ils ne dépendent, c'est eux qui décident. Donc, en un sens, la parole du serpent s'est accomplie. Oui, mais alors, vous le savez, c'est là l'ironie et la subtilité du mensonge du serpent. C'est un accomplissement foncièrement illusoire, car ce qu'ils ont connu, c'est leur nudité, leur profonde étrangeté l'un à l'autre et à eux-mêmes. Je crois qu'on pourrait aller jusque-là aussi. Les force à se dissimuler, à essayer malhabilement de se composer une tenue. Ce qu'ils ont découvert, ou ce à quoi ils ont accédé comme autonomie, c'est une autonomie illusoire, car en fait c'est le serpent qui les manipule. Et dans le péché, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc il me semble qu'on peut dire qu'il y a à la fois, oui, vérité, et puis ironie terrible. Parce que le péché ne tient ses promesses que par une sorte d'apparence, de mirage extérieur, de forme superficielle. Et puis, quant au contenu, alors c'est le contraire. Et la deuxième partie du verset, alors, cette espèce de peur de Dieu, semble-t-il, mais surtout qu'ils ne prennent pas l'arbre de vie, parce que certainement là, s'ils vivaient éternellement, alors empêchons-les. Ça a d'ailleurs un certain parallélisme avec la réaction de Dieu devant la tour de Babel. Il y a une grande similitude entre les deux récits, et on peut suggérer que, au fond, la tour de Babel, c'est le péché collectif, le péché social de l'humanité voulant monter jusqu'au ciel, voulant se faire comme Dieu, après le péché individuel en Genèse 3. Mais dans Genèse 11 aussi, nous avons, dans la tour de Babel, nous avons cette espèce de crainte de Dieu. Et maintenant, si on les laisse continuer, ils vont y arriver. Alors surtout, descendons, confondons leur langage, dit Dieu. Vous vous rappelez ce verset, n'est-ce pas? Pas besoin de vous donner la référence. Je crois que, là encore, c'est la présentation naïve, mais qu'elle veut exprimer une leçon théologique très, très profonde. Je crois que ce que veut dire cette façon de présenter les choses, c'est que si, c'est impossible et impensable, mais si il n'y avait pas cette intervention divine, cette condamnation qui est suite du péché et acte de justice, s'il n'y avait pas cela, ce serait le pire, ce serait l'horreur des horreurs, au fond. Si jamais l'homme, dans son péché, pouvait avoir la vie éternelle, dans cette confusion-là, alors serait le pire de tout. Je crois que c'est cela qui exprime cette forme. Et en quelque sorte, Dieu dit, en vérité, vous n'êtes pas des dieux. Vous avez voulu être comme des dieux, en un sens vous l'êtes devenu, mais tellement piteusement. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas, vous ne pouvez vivre éternellement. Et je reste Dieu. C'est un peu ce qu'il dit au prince de Tyr, dans le texte d'Ézéchiel 28, tu avais dit, je trônerai, etc., mais tu n'es qu'un homme entre les mains de celui qui te tue. Ils sont replacés, leur niveau d'homme, impossible, impensable, qu'ils accèdent dans le péché à la vie. Mais c'est en même temps, alors, une porte ouverte à l'espérance. Car si Dieu reste Dieu, alors la situation n'est pas absolument bloquée. Dieu dit, je continue d'être votre Dieu finalement. Même dans le jugement, votre Dieu. Et alors se raccrochent à cela, me semble-t-il, les éléments d'évangile que le texte nous propose, en même temps que la sentence de condamnation. Le fait que Dieu demeure le Dieu de l'homme et de la femme, et qu'il n'accède pas au rang divin, effectivement, l'arbre de vie, non. Ce fait-là permet de raccrocher, si vous voulez, toute une histoire à venir à ce texte de Genèse 3. Alors il y a d'abord les vêtements de peau que Dieu leur fait. J'ai annoncé ça tout à l'heure déjà. Vraiment, c'est une marque de telle compassion miséricordieuse de la part du Seigneur que ça laisse attendre toute une série de dispositions divines. Dieu n'abandonne pas l'homme et la femme. Il ne les a pas maudits d'ailleurs, on peut remarquer ça aussi. Il a maudit le serpent, mais il n'a pas maudit l'homme et la femme. Maudit le sol aussi, à cause de l'homme, et pourtant pas l'homme et la femme. Ensuite, il y a la sentence sur la femme. Il y a ce maintien de la bénédiction où des fils sont promis. Tu enfanteras des fils. Est-ce que ce n'est pas une promesse, ça? La vie va quand même continuer, même dans cette mort qui a commencé. Adam semble l'avoir compris lui-même, puisqu'il a appelé vie sa femme. Avant même la première naissance. Alors que la mort vient d'entrer par sa faute, il a, je dirais, le culot d'appeler sa femme vie, mais c'est un culot qui me paraît une hardiesse de la foi en face de la miséricorde que Dieu déjà exprime, révèle dans ses jugements. Melanchthon, le compagnon de Luther, appelait Ève, pour cette raison même, le sceau de la grâce. Et puis c'est la sentence sur le serpent, alors, que nous avons seulement commenté de façon brève, qui contient la promesse de la manière la plus explicite. Il t'écrasera tête, et tu l'écraseras talon. Même verbe pour signifier la réciprocité. Annonce d'une défaite décisive pour le serpent, car la tête... en hébreu surtout, en français même, c'est ce qui est capital. La tête, c'est l'essentiel. Vous savez, le commencement de la sagesse, c'est ce mot aussi, tête, par exemple, etc. Ça veut dire le principe, l'essence, etc. Il t'écrasera la tête, tu seras vaincu d'une manière décisive, totale. Et puis talon. Talon aussi, il y a un jeu de mots. Et tu l'écraseras, talon. Le mot talon, c'est akev, et vous avez une préposition ekev, qui s'écrit de même avec les consonnes, et c'est seulement les consonnes qui sont écrites dans le texte hébreu transmis, qui veut dire en retour, réciproquement. À partir de l'image du talon, vous avez celle de la trace, et à partir de là, vous avez finalement ce sens de réciprocité. Une préposition couramment employée. Alors je crois que c'est voulu, de même qu'il y a double sens sur roche, tête et puis principe, définisse, de même talon et en retour. Vous avez les deux niveaux, l'image du serpent puis de l'homme qui écrase un serpent et qui se fait mordre, mais deuxième niveau, Satan sera vaincu de façon décisive, radicale, mais mystérieusement, ce sera selon un mécanisme de réciprocité. En retour, il écrasera, dans son écrasement à lui, il écrasera ce fils de la femme qui remportera sur lui la victoire. C'est extraordinaire. Goldstein ne veut pas voir l'extraordinaire prophétie qu'il y a là. Alors il traduit tout à fait sans raison. Il s'efforcera en vain. Tu t'efforceras en vain de lui écraser le talon. Mais le texte n'est pas du tout ça. Non, non. Le Satan a écrasé en retour celui qui lui a écrasé la tête. Et cette pensée de la réciprocité, elle apparaît tout spécialement en Hébreux 2,14. Vous avez exactement ce texte de la Genèse paraphrasé. Jésus-Christ est devenu semblable aux enfants que nous sommes. Il a pris la chair et le sang, il est devenu postérité de la femme, afin que par la mort, il vainquit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, c'est fantastique comme netteté. Par la mort, il vainquit celui qui a la puissance de la mort. C'est ce paradoxe que nous avons ici aussi. L'écrasement du serpent se fera par l'écrasement en retour de celui qui naîtra de la femme. Vraiment, c'est ce qu'on peut appeler le protévangile, l'évangile avant l'évangile, selon la dénomination traditionnelle. Et je pense que Jésus déjà lui-même a interprété ainsi ce texte, car il évoque la figure du serpent et l'écrasement du serpent en Luc 10, versets 18 et 19. Luc 10, 18 et 19, il parle du pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, autres symboles de la puissance de l'ennemi, comme il l'appelle aussi en expliquant ces métaphores. Que nous dit alors ce verset sur lequel nous terminons? Je crois qu'il nous redit le message d'ensemble de ce passage, que le salaire du péché, c'est la mort. Seulement, il nous le dit d'une manière précisée, en nous disant que le salaire de notre péché a été la mort de Jésus, la mort de ce Fils à venir. Le salaire de notre péché a été sa mort. Et cela a pour conséquence, vous le savez, que le chemin de l'arbre de vie est à nouveau ouvert. Et qu'à celui qui croit au vainqueur, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, le Seigneur donne à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.